Voilà, bonjour à tous. Heureux de vous revoir après ces congés. Nous voilà donc repartis pour quelques bonnes semaines et donc heureux de pouvoir envisager de pouvoir collaborer, marcher ensemble pour plaire à notre Seigneur et avancer dans son royaume. Ce que je vais dire, je pense que vous allez le partager, c'est que dans la Bible, il y a des passages difficiles, des affirmations qui peuvent même poser parfois problème. En raison de la difficulté, il faut vite le dire, hein, donc en raison de la difficulté à les comprendre et aussi à les interpréter. Le psaume que nous allons voir, car nous sommes encore dans l'été, dans la série donc, des prédications sur les psaumes, le psaume que nous allons voir, qui est le psaume 91, est l'un d'entre eux, de ces passages qui, en tout cas, pour certains versets, peut paraître difficile. Peut paraître difficile. Le psaume 91, donc, est un psaume, un beau psaume, qui explique comment vivre la paix dans des circonstances difficiles ou même dans des situations périlleuses. Ce psaume nous parle de sécurité, de sûreté, de calme intérieur, de protection au milieu de l'épreuve, au milieu du danger. Et c'est là, nous savons, pour nous un sujet important. Mais quand nous lisons ce psaume, certains versets de ce psaume sont étonnants et même difficiles à saisir. Alors nous allons le lire, on ne va pas parler du psaume sans le lire quand même, nous allons lire. Il y a 16 versets, nous lisons ce psaume qui n'est pas trop long non plus, pas trop court non plus. Mais voilà, donc lisons le psaume 91, les versets 1 à 16. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, il te réfugiera sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur, ni la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce texte donc nous parle de sécurité, de sûreté, de calme intérieur, de protection. Mais de quoi est-il vraiment question ? Quand nous étions enfants, rappelez-vous un petit peu pour certains, donc nos parents ou d'autres adultes, hein, moi je n'ai pas eu de parents qui ont conduit une voiture, mais d'autres adultes nous conduisaient souvent en voiture pour de courts, voire même aussi de longs trajets. Nous étions souvent donc à l'arrière à ce moment-là, donc de la voiture, et c'était pour nous cette place, un lieu de sécurité, sécurité absolue. Aucun besoin, vous rappelez, de regarder la route pour savoir si tout allait bien, ou on pouvait même jouer avec les autres passagers, voir défiler le paysage, observer les gouttes d'eau qui glissaient sur les vitres, ou bien nous pencher en arrière par la lunette arrière pour voir le ciel défiler. Si vous n'êtes pas comme moi, donc, c'est-à-dire vous ne craignez pas donc, le mal de route. Nos parents, donc, en revanche, ce n'était pas pareil. Ou des adultes qui conduisaient, eux étaient très attentifs parfois même tendu, surtout quand il fallait donc doubler un camion, voire donc une caravane, ou quand c'était des routes assez étroites. Mais ce n'était pas notre cas en tant qu'enfant, car nous avions la paix. La paix. Une paix totale. Devenant adultes, et donc alors ayant passé le permis de conduire, nous pouvions alors être aux côtés du chauffeur, par moments, sur le siège passager. Et là, vivre une autre expérience. L'expérience pouvait être très différente, car nous avions alors la connaissance, ayant appris à conduire et devenu adulte, l'expérience, nous avions la connaissance d'éventuels dangers. Et parfois même, le besoin de presser la pédale de frein imaginaire face aux dangers que le conducteur semblait ne pas avoir perçu. La paix avait disparu. Avec l'âge, oui, c'est clair, on réalise que donc que la paix que nous avions jeunes enfants était certes très agréable, mais il s'agissait d'une paix naïve. On était simplement paisible parce qu'en tant qu'enfant, on méconnaissait les dangers. C'était une paix qui partait du principe que les accidents n'arrivent pas, ou alors arrivent aux autres. Donc, notre paix était alors, il faut bien le reconnaître, terriblement fragile. Et elle pouvait à tout moment disparaître si un accident survenait. Le psaume 91 ne parle pas de vivre une paix naïve, voire même stupide, mais une réelle paix, une paix intelligente, une paix profonde qui reconnaît la dureté des épreuves, la réalité de la vie, des dangers, mais qui trouve alors en Dieu un appui supérieur. Comment jouir d'une paix solide et profonde alors que, oui, c'est clair, la vie est parfois si difficile. Chaque jour, désolé de nous le rappeler, des gens meurent de façon soudaine. Je n'ai pas besoin trop de le rappeler, vous devez certainement penser, il y a des guerres, des fléaux. Des enfants et des aînés subissent même des violences intolérables, des personnes sombres dans le chagrin, dans la dépression, dans la maladie. C'est clair, la vie n'est pas un chemin de rose pour tout le monde. Elle est difficile pour beaucoup de gens. Et pour nous, des fois, elle peut l'être par moments. Comment jouir alors d'une paix malgré cela? Et je crois que nous avons une réponse dans le psaume 91. Alors regardons ce psaume. Les quatre premiers versets de ce psaume font état d'une promesse de Dieu qui peut se résumer ainsi. Si tu te confies en Dieu, si tu crois en lui, alors il te protégera des pires dangers. Le psaume utilise alors plusieurs images, plusieurs métaphores pour décrire, pour graver donc en nous une certitude, la certitude de cette protection divine. Il y a tout d'abord l'image de l'abri, l'abri sûr, un abri divin, du refuge une protection sur des choses qui pourraient nous atteindre. Ça pourrait être ne serait-ce que de la pluie, le froid ou la tempête, mais bien d'autres choses, un abri. Et puis il y a l'image de la forteresse, une forteresse inattaquable, inébranlable, dans laquelle on peut trouver refuge en période de guerre. Et ce sont les premiers versets du psaume. Une troisième image, moins facile à saisir, se trouve donc au tout premier verset, où il est dit que le croyant repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas très évocateur aujourd'hui, cette expression, mais au Moyen-Orient, ou dans les pays très chauds, être à l'abri, à l'ombre, pardon, ou en plein soleil est parfois une question de vie ou de mort. Dans ces pays, l'ombre est alors une bénédiction, une protection. Et les récentes canicules que nous ont fait un peu sentir la force de cette vérité, surtout si nous avons eu l'audace de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. Et si vous alliez alors en montagne, ça a été notre cas, combien il était même très agréable donc d'être dans une température plus basse et même donc de bénéficier de l'ombre. Le croyant repose à l'ombre du Tout-Puissant. La métaphore de l'ombre fait aussi penser à cette nuée qui accompagnait donc le peuple de Dieu, qui surplombait le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance lors de la traversée du désert après la sortie d'Égypte. Cette nuée qui adoucissait les effets dévastateurs du soleil en plein midi, elle adoucissait aussi le froid du désert durant la nuit. On n'y pense pas toujours à ce que cette nuée avait aussi cette fonction. L'ombre du Tout-Puissant protégeait. Il protégeait le peuple de l'Alliance de manière discrète, mais bien réelle. Il y a une quatrième métaphore dans ces premiers versets. C'est celle de l'oiseau qui protège son nid et garde au chaud ses tout petits donc sous ses ailes. Il te couvrira de ses plumes, dit le psalmiste, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Les petits oisillons sont très vulnérables, nous le savons. Donc pas de plumes, pas de duvet pour les tenir au chaud, aucune capacité à voler ou à fuir pour échapper à d'éventuels prédateurs. Et là alors, la mère, avec ses plumes et ses ailes, fait tout pour les protéger. Elle les abrite du vent, de la pluie, du soleil et même parfois aussi des prédateurs. C'est une image que Dieu reprend à son compte pour souligner qu'il est toujours là pour celui qui se confie en lui, pour le protéger, le garder, être au-dessus de lui. Et Jésus lui-même donc a utilisé cette image à propos de Jérusalem, la ville rebelle, qui a pourtant refusé de l'écouter et de le reconnaître comme Messie. Je cite Matthieu au chapitre 23, Jésus qui dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes ?» et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » La promesse divine donc peut donc se résumer ainsi. Celui qui se confie en Dieu, en lui, de tout son cœur, celui qui croit en Dieu, bénéficie d'une protection spéciale en période de détresse et de danger. Et c'est vrai que nous pourrions alors à ce moment-là faire passer le micro, et qui de nous pourrait pas témoigner qu'il n'a pas... Alors oui, on a tous, je crois, bénéficié de cette protection, ou dans une situation bien difficile, nous avons vu notre Dieu agir en notre faveur. Bénéficier de cette paix solide, profonde, véritable, qu'apporte cette protection spéciale de Dieu. C'est loin d'être naïf, inconscient du danger, mais c'est se confier donc sur notre Dieu quand nous sommes alors dans les bons moments, mais aussi les mauvais moments de notre vie, en sachant qu'il va lui agir comme lui seul sait le faire. C'est pourquoi nous pouvons, et même nous pouvons dire nous devons, avoir foi en notre Seigneur. La foi demandée ici n'est pas une adhésion à un credo, à un assentiment intellectuel, ce n'est pas ça. Mais c'est une confiance qui vient du fond du cœur et qui implique alors l'être entier. Elle englobe, elle dépasse la raison. C'est clair. Donc, malgré les circonstances, Dieu nous donne cette assurance et cette paix. Elle est le résultat donc d'une alliance entre Dieu et nous-mêmes. Une alliance où l'on peut dire, comme au verset 2, Dieu, oui, il est mon refuge, il est ma forteresse, il est mon Dieu en qui je me confie. Oui, celui qui se confie en Dieu de cette manière jouit de sa protection en situation difficile. Et combien alors il est bon d'en bénéficier. Nous ne nous en privons pas. Mais ce psaume continue, et à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, le psalmiste développe des affirmations plus difficiles, plus problématiques, on va dire. Dans cette partie, le psalmiste développe les conséquences pratiques de la promesse de protection de Dieu et énumère alors quelques applications possibles. Et alors, ce qu'il affirme peut nous laisser perplexes, car cela peut ne pas correspondre à ce que nous vivons aujourd'hui comme chrétiens. Comment bien comprendre cette partie centrale du psaume ? Elle semble affirmer que rien de mauvais ne pourra jamais arriver à celui qui se confie en Dieu. Comme si le croyant avait autour de lui une sorte de bulle de champ magnétique, détournant alors tous les projectiles, tous les problèmes et éloignant donc tous les malheurs. Regardons ces versets. Le verset 5 parle de flèches qui volent le jour. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas des flèches lancées au hasard, c'est ça. Enfin, ça aussi, ça pourrait nous toucher. Mais donc des flèches donc bien visées, donc, mais qui ne touchent pas. Verset 6, il parle de peste, il parle de contagion qui n'atteint pas donc celui qui se confie en Dieu. Comme si nous étions alors épargnés donc de fléaux, épargnés d'attaques, de violences, épargnés de maladies. Le psalmiste insiste au verset 7. Et 6 000 tombent de ton côté, de toi, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, dit le psalmiste. En d'autres mots, tu verras de tes yeux bien des dangers qui touchent d'autres, mais tu ne seras pas atteint. Pourtant, reconnaissons-le, rappelons-le, ces derniers mois, le Covid-19, par exemple, on pourrait citer de bien d'autres exemples, a touché pas seulement que des non-chrétiens et des enfants de Dieu qui ont été donc terrassés par le virus. J'ai perdu comme ça un ami, alors qu'il était loin d'être bien âgé. Encore plus fort au verset 11 et 12, le texte suggère que la protection de Dieu, elle est tellement totale. Donc, tellement merveilleuse que Dieu lui-même enverra au besoin ses anges pour éviter qu'un de ceux qui se confient en lui ne trébuche contre une pierre et ne se fasse mal aux pieds. C'est formidable, même nos orteils sont protégés. Ça, il faut connaître cette expérience-là pour comprendre que c'est même précieux quand même. Quand vous cognez un orteil, ça peut faire mal. Cela donc semble vraiment difficile à comprendre littéralement, surtout si nous tentons de nous souvenir, ne serait-ce pour les moments où on a trébuché, des quelques chutes mémorables, parce que souvent on s'en souvient, que nous avons pu faire. En d'autres mots, le psaume semble dire, aucun mal ne va t'arriver, aucune violence ne t'atteindra, aucune maladie ne te frappera, et même tes orteils seront protégés. Mais cela ne colle pas, on en convient, avec l'expérience des chrétiens au cours de l'histoire passée, et encore aussi pour aujourd'hui. Cela ne colle pas avec ce que nous pouvons même vivre aujourd'hui, pour certains, voire parfois. La maladie a frappé, la maladie frappe les croyants, et les non-croyants sans distinction. Les persécutions ont bel et bien existé, et elles existent encore aujourd'hui. Et elles ont même été annoncées par Jésus. Et on pourrait encore citer bien d'autres choses qui peuvent nous atteindre, nous faire du mal. Alors comment comprendre ce passage ? Il est bon de se rappeler que la Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite donc en hébreu, en tout cas pour le psaume, et en d'autres langues, grec et d'autres langues, et une autre langue. Mais la traduction en français ne donne pas toujours ce que l'hébreu laisse en passer. Donc, et quand on lit le psaume 91, on ne pense pas qu'on lit un poème, par exemple, en français, alors que c'est un poème. Et quand vous êtes donc quelqu'un qui maîtrise l'hébreu, que vous regardez donc ce texte, et ce n'est pas mon cas, hein, mais donc vous voyez bien que les mots sont choisis, sont bien choisis, sont bien ciselés, judicieusement placés de sorte à donner un rythme au texte. Et finalement, il y a une chose que nous devons apprendre avec les psaumes, c'est que parfois des affirmations, si on les prend littéralement, ne sont pas tout à fait donc justes. Il ne faut pas les prendre littéralement. Nous ne sommes pas tenus d'interpréter un poème de manière aussi littérale qu'un texte narratif. Car il cherche avant tout à nous faire sentir une vérité. C'est un peu comme les vieux proverbes donc français. Par exemple, quand je dis « Pierre qui roule n'amasse pas mousse », on ne sait plus trop ce que ça veut dire, hein. Mais il semble que ça veut dire « l'installation dans une vie empêche bien souvent de porter du fruit ». L'instabilité dans une vie empêche bien souvent de porter du fruit. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe aucune pierre sur terre qui, ayant roulé, n'aurait pas de mousse sur elle. C'est juste une image. Et nous devons comprendre que le psalmiste souligne ici le bénéfice de la protection divine. Dieu garde, Dieu intervient en la faveur de celui qui se repose en lui. Mais cette garde et cette protection n'est pas une assurance contre toutes les blessures, les maladies et les dangers qui pourraient nous atteindre. Et l'autre chose qu'il faut voir quand nous lisons un texte, quel qu'il soit, que ce soit les psaumes ou autres, nous devons regarder en fonction aussi de tout ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et là, donc, nous avons dans la parole de Dieu bien d'autres textes qui soulignent ce fait que donc la protection divine ne nous empêche pas d'avoir donc des blessures qui peuvent nous atteindre, des maladies, des dangers. Et je vous donne deux raisons pour lesquelles on ne peut pas interpréter ce texte comme une assurance contre toutes les blessures, les maladies et les dangers. Et puis ensuite, voir comment alors quand même l'interpréter ce texte en harmonie avec le reste de la révélation divine. La première raison, on la connaît, c'est l'histoire de Job, qui nous la donne donc cette raison. La Bible le dépeint alors comme un croyant exemplaire, sur lequel va pourtant tomber un nombre incroyable de catastrophes et de maladies. Le pauvre Job donc va perdre simultanément tous ses biens, tous ses proches à l'exception de son épouse, et être atteint d'une terrible maladie de peau, le faisant souffrir jour et nuit. Et quand les amis de Job viennent pour le consoler, ils sont simplement sidérés par l'intensité du malheur et de la souffrance qui accable leur ami. Mais malheureusement, les amis de Job semblent faire partie de ceux qui interprètent le psaume 91 littéralement. Ils croient très sincèrement que celui qui se confie en Dieu est épargné de tout malheur et de toute souffrance. Du coup, pour eux, la vérité inverse est vraie aussi. Si jamais quelque chose de mauvais t'arrive, alors c'est que forcément tu ne t'es pas assez confié en Dieu. Si jamais tu endures un malheur, c'était le message donc de ses amis de Job, alors forcément c'est le signe que tu as manqué de foi. En ce cas, il te faut vite prier, en ce cas il te faut vite donc te repentir. C'est le message d'Eliphaz particulièrement et de ses deux autres amis qui vont transmettre donc à Job. Sûrement, tu as commis une faute gravissime. Avoue-la, repens-toi et tu iras mieux, car Dieu protège celui qui se confie en lui. Et après, donc, un très long débat, on connaît le livre de Job, hein, entre Job et ses amis, où Job tente de se défendre. Dieu intervient alors finalement, et voici ce qu'il dit à Eliphaz et à ses deux amis. C'est Job 42, verset 7. « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi droitement selon la vérité, comme l'a fait mon serviteur Job. » Oui, Dieu rectifie le tir. Ceux qui croient que le croyant est protégé de tout malheur, et donc qui croient qu'un malheur est forcément le signe d'un manque de foi ou d'un péché, ils se trompent. Dieu lui-même réfute cette interprétation. Leur accusation et leur compréhension de la protection divine de ses amis de Job, et si nous le croyons nous aussi, donc comme ses amis, elle est incorrecte. La deuxième raison pour laquelle l'interprétation littérale du psaume 91 est incorrecte, si on la prend dans le sens que rien ne peut nous atteindre, est que c'est justement l'interprétation préférée de Satan. Satan aime cette interprétation, celle avec laquelle il tente de piéger Jésus d'abord, dans la tentation, dans les 40 jours de tentation dans le désert, au tout début de son ministère. Luc chapitre 4, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, Satan rappelle le psaume 91. Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ici, le diable donc cite en partie le psaume 91 en lui donnant l'interprétation la plus littérale possible, en laissant attendre que la Bible affirme que le malheur ne frappe aucun croyant authentique. À bien plus forte raison, alors, pour Jésus, s'il est vraiment le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, c'est pour ça que le diable lui dit, « Jette-toi en bas du temple et des anges vont te porter pour éviter une chute. » Il ne peut pas t'arriver de malheur. Et Jésus refuse et rejette cette lecture du psaume 91. Et non seulement il va la rejeter, mais il va bien au contraire accepter de vivre la souffrance, de vivre la mort sur la croix, par amour des hommes, pour le pardon de nos fautes. Si Satan désire de manière aussi forte nous faire croire que le croyant ne doit jamais souffrir, ou même ne jamais vivre de choses vraiment mauvaises dans sa vie, c'est parce que c'est pour lui le meilleur moyen de détruire la force de la promesse faite dans le psaume 91, celle concernant la protection divine, et le meilleur moyen de détruire aussi notre confiance en Dieu. Et d'ailleurs, cela fonctionne très bien dans le monde. Il suffit de poser la question au premier passant que vous croisez donc dans la rue et de lui demander pourquoi il ne croit pas en Dieu. Et en général, la réponse est presque toujours en rapport avec la souffrance dans le monde. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Il ne serait pas arrivé cela à un tel. Il n'y aurait pas de souffrance pour les enfants, etc. Ou dans leur vie personnelle, de l'interlocuteur. Donc, si Dieu existait, il ne me serait pas arrivé tout cela. La stratégie du diable, donc, pour éloigner les gens de la foi, consiste à leur dire, si Dieu te laisse souffrir, cela signifie que soit qu'il n'est pas fidèle à ses promesses, soit qu'il ne t'aime pas, il ne s'occupe pas de toi, il n'a rien à fichtre de toi. Et c'est faux, bien sûr. Mais une des nombreuses stratégies du diable est de déformer la pensée de Dieu pour mieux nous faire douter de la parole par la suite. Mais nous connaissons la parole. Nous avons, en tant que chrétiens, la bonne interprétation de cette promesse de protection donné au psaume 91. À la lumière de ce que Jésus enseigne sur les hommes méchants qui peuvent tuer le corps, mais par exemple qui ne peuvent tuer notre âme. Matthieu 10, 28, on comprend donc la bonne application de ce psaume quand Jésus enseigne donc que finalement, d'abord, la protection divine concerne notre âme, notre cœur, notre être intérieur, avant de concerner notre corps. Bien sûr, Dieu peut parfois nous garder, et heureusement, d'un danger ou nous donner donc la guérison de notre corps. Mais c'est avant tout comme un signe de ce qu'il veut faire pour la totalité de notre être. Affirmer que cela ne diminue nullement la promesse de protection divine, mais au contraire l'augmente, donc ça montre bien que Dieu agit, mais pas toujours comme on le voudrait. Nous, on aimerait bien que Dieu nous protège de tout mal. Mais Dieu promet de nous protéger, oui, de nous protéger des pires dangers qui touchent notre âme, qui touchent notre esprit, qui guettent notre âme, qui elle est éternelle. Et heureusement qu'aussi, il nous protège des pires dangers, donc physiques, des pires dangers qui touchent notre corps par moment. Dieu protège notre âme, il la protège, la couvre de son ombre, la couvre de ses ailes protectrices. Son regard observe sans cesse les dispositions de notre cœur. Il prend soin qu'aucune des flèches enflammées de Satan ne nous atteigne et ne tue notre confiance et notre espérance. Il évite que notre âme ne tombe malade de ces terribles maladies spirituelles, car il y a des maladies spirituelles qui sont l'envie, la jalousie, la haine, la tristesse, etc. Oui, Dieu chérit notre âme, chérit notre foi, chérit donc sa relation avec nous. Dans le temps présent, Dieu peut consentir alors que nous passions par le feu de l'épreuve, afin qu'un bien plus élevé, une joie plus intense, une gloire plus grande nous soit accordée pour l'éternité. Dieu peut permettre une souffrance temporaire pour que notre foi et notre confiance en lui grandissent, pour que notre âme gagne en épaisseur, en profondeur. Et la véritable alors paix intérieure, alors donc, se manifeste ainsi. Elle ne nie pas l'existence du mal, ni la possibilité que celui-ci nous atteigne, mais elle consiste à croire que toute chose, oui, vous connaissez bien ce texte de Romains 8, chapitre 8, verset 28, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, à la fois le bien, à la fois le mal, et même le très mauvais. La protection de Dieu est bien plus subtile que l'explication simpliste que Satan cherche à nous faire croire. L'ultime défaite du mal, alors, va consister à retourner ce mal que nous avons subi à un bien supérieur. Dieu l'a fait avec la mort de Jésus, il peut aussi le faire avec nos difficultés, avec nos épreuves, avec nos souffrances, ou même nos maladies physiques, si nous croyons en lui. Le psalmiste continue, après il laisse ces trois versets, cette dernière partie du psaume, où c'est l'oracle final prononcé par Dieu à la première personne. Je vais courtement, rapidement en parler, mais ces trois versets qui finissent ce psaume appuient ce que nous venons de développer. Je les recite rapidement. « Puisqu'il s'attache à moi, dit Dieu, je le délivrerai, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui. » Vous lisez bien ce qu'il écrit « dans la détresse ». Vous voyez bien que même donc déjà dans le psaume, il y a là une ouverture de compréhension que nous pouvons être atteints par la détresse et que ce qui est dit avant, si on le prend littéralement, n'est pas juste. Donc il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Oui, je serai, dit Dieu, avec lui dans la détresse. Finalement, Dieu ne nous promet pas d'être épargné, mais il nous promet d'être avec nous. Et il ne dit pas qu'il va nous prémunir de tout malheur, mais il va nous en délivrer. Et que ce temps difficile, parce que donc il visera d'abord notre âme, et notre âme pourra en être libérée, et que ce temps difficile de notre vie contribuera alors, et il faudra toujours s'en rappeler, parce qu'il y aura tôt ou tard des temps difficiles dans notre vie, contribuera alors au bout du compte, à un honneur, il est dit ici, donc je le glorifierai, je l'honorerai. Donc au bout du compte, ça va contribuer à un honneur plus grand pour nous-mêmes et même au salut de notre âme. Notre salut sera encore plus grand. Pour conclure, Dieu est totalement souverain, plein d'amour. Et oui, on peut le dire, il nous protège vraiment. Mais il le fait de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe que celle que nous avons tendance à imaginer parfois. Que Dieu, alors, par son esprit, nous fasse goûter à cette paix intérieure, que rien ne l'enlève en nous, qu'il veut nous accorder une paix sage, une paix intelligente, qui ne tombe pas dans le déni, mais qui dépasse les circonstances de la vie. Que Dieu nous y aide. Amen. Merci Père éternel pour ta parole, pour l'équilibre de ta parole aussi. Merci que nous pouvons comprendre même les textes difficiles à la lumière de toute ta parole. Et merci encore Père éternel parce que tu es là, tu es notre Dieu, tu nous gardes. Tu vraiment as un regard bienfaisant envers nous et merci pour ta protection pour chacun de nous et pour nos bien-aimés Seigneur. Pour ton Église aussi, merci Seigneur. Amen.